Universel, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du 24 mars 2014, Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, peut-être la fin d'un mystère. Les autorités malaisiennes ont annoncé que l'avion disparu le 8 mars s'est écrasé dans l'océan Indien. Aucun survivant. De nouveaux incidents armés à Bangui alors que la Centrafrique reçoit une délégation parlementaire d'Afrique centrale.
Nous ne sommes pas venus pour des discours, nous sommes venus toucher du doigt la réalité.
Vincent Mavungu Bouyou, président du Parlement de la CEMAC, que vous entendrez tout à l'heure. En Égypte, condamnation à mort de plus de 500 partisans du président déchu Mohamed Morsi. À Brazzaville, l'opposition s'insurge contre les listes électorales. Nouveau renfort américain pour la traque de Joseph Kony. Et vous entendrez bien entendu en fin d'émission les sports et la musique, mais avant tout le journal.
Nous commençons par la nouvelle qui domine l'actualité aujourd'hui. L'avion de Malaysia Airlines, disparu des écrans radars depuis le 8 mars, s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien et aucun des 239 passagers et membres d'équipage n'a survécu. C'est la nouvelle qu'a annoncé ce matin un responsable malaisien, Michel Joseph.
Le premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré qu'un examen plus approfondi de la trajectoire de vol, basé sur des données satellitaires recueillies par une société britannique, a montré que le vol 370 de Malaysia Airlines a plongé dans l'eau dans un endroit éloigné à l'ouest de la ville australienne de Perth.
It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you.
C'est donc avec une profonde tristesse et avec regret que je dois vous informer que le vol MH370 s'est abîmé dans le sud de l'océan Indien, a dit Najib Razak. Le chef du gouvernement malaisien a ajouté que les parents des 239 personnes à bord du vol reliant Kuala Lumpur à Pékin ont été prévenus sur le sort du Boeing 777. Il a fait l'annonce au moment où un navire de la marine australienne essayait de localiser plusieurs objets repérés par des avions de recherche dans l'océan Indien au sud-ouest de l'Australie. Des avions et navires de plusieurs pays poursuivent leurs recherches à environ 2500 km de l'Australie. Parallèlement, la marine américaine annonce l'envoi d'un détecteur de boîte noire qui pourrait aider à localiser l'avion disparu. La boîte noire contient des informations détaillées sur tout ce qui se passe dans un avion.
En Centrafrique, la tension reste vive à Bangui, la capitale. De violents tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus toute la nuit dernière et même aujourd'hui dans plusieurs quartiers. Une situation qui a paralysé la circulation et les activités économiques. Le point sur la situation avec Timothée Donangmaï.
Après une brève accalmie au cours de la nuit, des tirs ont repris ce matin dans certains quartiers nord de Bangui. Il est toujours difficile d'expliquer cette flambée de violence. Dans les rues de la capitale, miliciens anti-Balaka et forces internationales jouent à cache-cache. Toute la journée, une partie de l'avenue de l'Indépendance était impraticable. Plusieurs barricades ont été érigées à divers endroits de cette avenue longeant le 4e arrondissement. Des commerces sont restés fermés au marché de Fou et de Gobongo. Au quartier PK5, par contre, la situation était relativement calme après les violents affrontements opposant des anti-Balaka aux musulmans armés du secteur. Certains leaders des miliciens ont accusé ce lundi les éléments burundais de la MISCA d'avoir combattu aux côtés des musulmans armés. La MISCA, elle, se réserve encore de tout commentaire à ce sujet. C'est dans ce contexte de tension qu'une délégation des parlementaires d'Afrique centrale entame une visite de 5 jours dans le pays. Vincent Mavungu Bouyou, président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC explique le but de leur mission à Bangui.
Nous ne sommes pas venus pour des discours, nous sommes venus toucher du doigt la réalité centrafricaine et nous pensons que notre contribution ira dans le sens de réactiver un dialogue nécessaire. Ce dialogue qui doit ramener les filles et les fils de ce pays en vue de trouver ensemble les solutions de la restauration de la paix et de la réconciliation dans le pays.
La délégation des parlementaires de la CEMAC s'entretiendra avec les autorités de la transition, les forces internationales, les différentes couches sociopolitiques du pays, avant de visiter les sites des déplacés.
Un tribunal égyptien a condamné à mort 529 membres des Frères musulmans sous divers chefs d'accusation, dont assassinat d'un policier, attaque d'un poste de police et autres actes de violence. Le tribunal de Minya, à environ 200 km au sud du Caire, a rendu la décision ce lundi dans un procès qui a débuté samedi. Plus de 100 des accusés sont en détention, mais la plupart ont été jugés par contumace. 16 personnes ont été acquittées.
Le HCR a déclaré ce lundi être choqué et attristé par la mort de dizaines de réfugiés congolais, y compris des enfants qui se sont noyés lorsque le bateau qui les ramenait chez eux à partir de l'ouest de l'Ouganda a chaviré sur le lac Albert. Selon la police ougandaise, 98 corps ont été retrouvés et 41 personnes ont été secourues. Les recherches continuent. Le bateau a chaviré car il était surchargé, a déclaré la police, ce qui est fréquent dans la région où il y a déjà eu des naufrages de ce genre.
À Brazzaville, les opposants rejettent les listes électorales publiées par le gouvernement à l'issue du recensement administratif spécial. Réunis hier, certains groupes ont même appelé au boycott si les autorités ne font pas marche arrière. Nguelan Goussou.
Pour les opposants qui se réunissaient ce dimanche à Brazzaville, il n'y aura pas d'élection si le recensement administratif n'est pas repris et la liste électorale assainie. Mathias Nzon est l'un des leaders de l'opposition radicale.
Tant que nous ne nous accorderons pas sur les conditions permissives de l'élection, c'est-à-dire les listes électorales, la commission électorale indépendante, la loi électorale et le corps électoral. Tant que nous ne sommes pas d'accord sur ça, il n'y aura pas d'élection et nous appellerons les Congolais à boycotter ces élections.
Depuis quelques semaines, le gouvernement publie les listes électorales dans les départements. Une démarche qualifiée d'unilatérale par les opposants, dont l'UPADS qui a claqué la porte au processus. Clément Mirassa de l'opposition dénonce ici quelques faits.
Qui peut donner le moins de crédit à ce pays si nous disons que la Bouenza, qui a 309 000 habitants, le département le plus peuplé du Congo, a un corps électoral moins élevé que la Likwala, qui a la moitié de la population de la Bouenza.
Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur ces déclarations, mais la commission qui a organisé ce recensement salue la forte participation des populations et des partis politiques. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En collaboration avec le ministère guinéen de la Santé, Médecins sans frontières a mis en place une structure d'isolement de cas suspects de fièvre hémorragique de type Ebola à Gekedou. Il va le faire aussi à Macenta, dans la région de Nzérékoré. Camille Gros-Didier a joint le docteur Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations MSF.
Cette épidémie d'Ebola survient dans une région où nous travaillons déjà. Donc nous avons envoyé des équipes pour renforcer les équipes travaillant habituellement sur place ainsi que le ministère de la Santé. Pour l'instant, nous sommes en train de déployer une unité d'isolement sur l'hôpital de Gekegou, c'est prévu également sur l'hôpital de Macenta.
La semaine dernière, les autorités sanitaires de cette région parlaient d'une épidémie de fièvre de Lassa, mais pas d'Ebola. Comment est-ce qu'on a déterminé qu'il s'agit bien d'Ebola ?
Donc on était parti avec le ministère de la Santé sur une suspicion de fièvre de Lassa, étant donné que c'est une maladie qui est fréquente dans la zone, ainsi que sur la Sierra Leone. Le tableau clinique a fait envoyer des prélèvements sur les instituts spécialisés qui ont permis de déterminer une fièvre hémorragique de type Ebola.
La fièvre hémorragique Ebola est en général associée à l'Afrique centrale. Est-ce qu'elle est également fréquente en Afrique de l'Ouest ou est-ce que c'est rare ?
De connaissance, c'est la première fois qu'on fait face à une épidémie de fièvre hémorragique de type Ebola en Guinée.
Des renforts américains pour traquer Joseph Kony et ses hommes de l'armée de résistance du Seigneur. Le président Barack Obama a décidé d'envoyer en Ouganda environ 150 soldats supplémentaires et au moins 4 avions de transport CV-22 Osprey. Ces appuis seront déployés entre la Centrafrique, l'Ouganda et la RDC. Quelle sera la contribution de ces appareils à l'opération pour capturer Kony ? Jacques Aristide a joint Dr. Christopher Chivis de la RAND Corporation.
Oui, je crois que ça peut être très utile parce que le CV-22, c'est un avion qui est très intéressant. C'est un avion qui est à la fois un hélicoptère, mais aussi un avion. C'est-à-dire que l'avion a des hélices qui peuvent pivoter d'une sorte que l'appareil peut sauter directement du sol dans l'air, verticalement, c'est-à-dire dans l'air, comme un hélicoptère. Mais en même temps, les hélices peuvent pivoter au moment que ça arrive dans l'air. Et ça donne la possibilité d'aller beaucoup plus loin qu'un hélicoptère. Donc, il y a une portée beaucoup plus longue qu'un hélicoptère. Donc, ça c'est quelque chose qui est très utile pour des forces spéciales et pour des chasses, comme ce qui se passe maintenant. Mais c'est toujours vrai que les militaires américains, si j'ai bien entendu, ne vont pas eux-mêmes chasser Kony. Ils sont là uniquement pour aider les forces africaines.
Dr. Christopher Chivis de la RAND Corporation, joint en Virginie, ici aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama poursuit sa tournée en Europe. Il s'est prononcé aujourd'hui encore sur la situation en Ukraine. Lionel Gaïma.
Le président américain a déclaré que les États-Unis et l'Europe sont unis dans leur décision de faire payer un prix à la Russie pour ses actions en Ukraine. Il répondait aux questions des journalistes en Hollande avant une réunion d'urgence du groupe de 7 pays les plus industrialisés du monde, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Le G7 organise cette session pour discuter de l'annexion de la Crimée par la Fédération russe. Les participants veulent coordonner leurs réponses, notamment l'imposition des sanctions contre Moscou. Il s'agit aussi d'évaluer davantage le coût d'éventuelles mesures de représailles du gouvernement russe. En marge d'un sommet sur l'énergie nucléaire qui se tient à La Haye, le président Obama devait avoir un tête-à-tête ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping. Demain, le chef de l'exécutif américain rencontrera le premier ministre japonais Shinzo Abe et la présidente sud-coréenne Park Geun-hye.
Le gouvernement ukrainien a ordonné le retrait de ses troupes en Crimée après la prise de 3 installations militaires par la Russie durant ces 3 derniers jours. Le retrait est une réponse à l'annexion de la Crimée, indique-t-on à Kiev. Selon le vice-président ukrainien Oleksandr Turchynov, les troupes russes ont proféré des menaces à l'encontre des soldats ukrainiens et leurs familles. Entre-temps, le secrétaire d'État américain John Kerry devait rencontrer aujourd'hui à La Haye son homologue russe Sergei Lavrov pour discuter de la crise en Ukraine, en marge d'un sommet international sur l'énergie nucléaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil. Tout juste un an après la rébellion en Centrafrique ayant renversé le président François Bozizé, les violences intercommunautaires continuent et des dizaines de milliers de personnes ont quitté le pays pour échapper aux agressions. La paix, c'est un comportement, a dit à la Voix de l'Amérique Salomon Cottereau, ancien député centrafricain exilé à Paris depuis la destitution du président François Bozizé. Il a créé récemment l'association Oubangui Chari pour le vivre ensemble dont l'objectif est de faire cesser ces violences visant surtout les Tchadiens et les musulmans. Écoutons-le.
Au regard de ce qui se passe dans mon pays depuis une année, on ne trouve pas de mots pour qualifier cela. Cela dépasse l'entendement malgré les bonnes volontés des personnes qui ont appuyé la transition et puis à travers la communauté internationale, les efforts des chefs religieux pour amener la paix dans mon pays. Rien ne marche. Aujourd'hui, les affrontements continuent entre les anti-Balakai et les Séléka. La destruction continue et vraiment, au regard de ce qui se passe au pays en Centrafrique, où les deux communautés musulmanes et chrétiennes ont toujours vécu en symbiose et en harmonie. Et vu au regard des exactions qui se sont produites, nous avons décidé, avec les personnes de bonne volonté, de la diaspora tchadienne et centrafricaine en France, on s'est réunis pour mettre en place cette association qui s'appelle Oubangui Chari pour le vivre ensemble. Cette association veut donner un autre son de cloche, veut donner un symbole de fraternité, un symbole de l'harmonie qui a toujours existé entre les deux pays. Les deux peuples tchad et la Centrafrique ont toujours vécu dans le passé par en harmonie à travers la diversité culturelle, à travers le brassage. Et nous avons comme mission de participer à la paix de créer un cadre de réflexion et de dialogue et d'aller sur le terrain, de sensibiliser pour dire que la paix n'est pas un mot, la paix c'est un comportement.
Alors, en tant qu'ancien député, quel est votre regard finalement sur le Parlement de transition actuel qui n'a finalement pas grand pouvoir?
Mais il n'y a que ce pouvoir-là qui peut faire foi maintenant de contrepoids pour accompagner jusqu'aux élections. On ne peut que soutenir ce Parlement et ce que nous tenons à leur dire, c'est de prendre leurs responsabilités, d'appeler les gens à ne pas outrepasser le pouvoir, à protéger d'abord le peuple, à défendre le peuple, parce que c'est cette transition qui est la survie de la Centrafrique.
Est-ce que vous savez où se trouve actuellement François Bozizé et s'il a l'intention de revenir sur la scène politique?
Ni de loin ni de près, je n'ai pas de contact avec lui. Je lis comme vous dans les journaux, mais on ne sait pas exactement où le situer. Ben, bon, le président Bozizé a toute sa place encore dans le fichier de politique centrafricain. Mais du moment où le président Bozizé n'a pas été arrêté, le président Bozizé n'a pas été condamné, le président Bozizé n'a pas été encore jugé, je ne pense pas rien de le disqualifier comme beaucoup d'autres centrafricains. Il est considéré comme un centrafricain.
C'était Salomon Cottreau, ancien député centrafricain exilé à Paris.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Nigeria, cela fait maintenant près de 5 ans que le groupe militant Boko Haram est en insurrection contre le gouvernement dans le nord du pays. En dépit de l'offensive militaire lancée en mai 2013, les attaques continuent contre les civils. Alors d'aucuns se demandent ce que veut réellement Boko Haram et si l'insurrection a échappé à tout contrôle. Timothée Donangmaï.
Au cours des 10 derniers mois, les militants de Boko Haram ont multiplié les raids contre les villages, les assassinats de voyageurs et d'élèves dans les internats. La question de fond est de savoir ce qui les motive. Fondé au début des années 2000, Boko Haram s'était donné pour mission l'instauration d'un régime islamique pur dans le nord-est du Nigeria. Certains expliquent son avènement par des années de corruption et la pauvreté croissante dans le pays. Mais pour l'éditorialiste nigérian Frédéric Nwabufo, Boko Haram est né de l'ultra-religiosité de la société nigériane. Ses tactiques agressives n'ont pas fait perdre de vue aux militants leur objectif premier, a-t-il souligné. Maintenant, ils essaient de faire mal autant qu'ils peuvent. Mais cela ne change pas la chose fondamentale pour laquelle Boko Haram se bat. Il se bat pour le contrôle. Il estime que la charia doit guider les Nigérians et l'État, a expliqué l'éditorialiste Frédéric Nwabufo. L'armée nigériane présente de plus en plus le groupe militant comme étant désorganisé et en déroute. Toutefois, certains analystes sont d'avis que la coordination des attaques de l'année écoulée montre que la structure de commandement du groupe est restée intacte. Boko Haram a toujours été une constellation de factions ou de cellules, certaines plus modérées que d'autres, certaines proches d'Al-Qaïda, avec des agendas djihadistes internationaux. Pour l'heure, on en sait très peu au sujet de ce groupe. Son fondateur, l'imam Mohamed Youssouf, prêchait ouvertement jusqu'en 2009 et ses sermons ont circulé dans le nord Nigeria pendant des années à travers les téléphones portables et des DVD. Le soulèvement lancé par le groupe en 2009 s'est soldé par une sanglante répression qui a fait au moins 700 morts. L'imam Youssouf a été arrêté et tué. Son bras droit, Aboubakar Shekau, a pris la relève, déclarant en juillet 2010 que le djihad venait seulement de commencer. Shekau a récemment proféré de nouvelles menaces, jurant de tuer les chrétiens où qu'ils soient et revendiquant la responsabilité du meurtre d'un leader religieux musulman qui était opposé aux actions de Boko Haram. Ce qui fait de vous des infidèles, c'est la démocratie, la constitution et l'éducation occidentale, a-t-il lancé aux autres Nigérians. On en est toujours à se demander si toute cette violence de Boko Haram n'est qu'un moyen pour une fin.
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'OMS se félicite des progrès réalisés. En effet, une nouvelle méthode de diagnostic a permis de progresser nettement dans 27 pays. Camille Grosdidier a joint le docteur Mario Raviglione de l'OMS.
On a les résultats d'un projet qui a commencé en 2008-2009, dans cette période-là, avec 87 millions de dollars mis à disposition par Unitaid, qui nous a permis de mettre en place dans 27 pays prioritaires, un réseau de laboratoires qui utilise de la technologie moderne pour faire le diagnostic de la tuberculose et surtout de la tuberculose multirésistante. À travers ce projet, on a aujourd'hui 92 laboratoires qui sont maintenant parfaitement équipés pour faire ce qu'il faut faire pour le diagnostic de la tuberculose et surtout de la multirésistance. Et ce qu'on a noté, c'est que dans ces pays-là, on a eu une augmentation importante des cas de tuberculose multirésistante comparé à ce qui se passait avant.
Parmi les pays où donc ont été mis en place ces nouveaux laboratoires, quels sont les pays africains ?
Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Lesotho, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Ouganda.
Et ça va être une avancée fantastique pour ces pays parce que jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens de détecter les cas de tuberculose multirésistante.
C'est exactement ça. Parce que vous voyez, dans beaucoup de ces pays, ce qu'il y avait là, il y avait des laboratoires à niveau de préfecture. Et c'était des laboratoires surtout qui faisaient l'examen du crachat avec le microscope. Et avec un examen comme ça, normalement, on n'a pas la possibilité de détecter les cas qu'on appelle crachat négatif. Pour les identifier, alors normalement, on faisait la culture. Mais la culture va prendre au moins 6, 7, 8 semaines. Alors là, on a un malade qui se présente avec la toux, par exemple, et on a la suspicion de la tuberculose. On fait, par exemple, la radiographie, on voit qu'il y a des lésions pulmonaires qui peuvent être tuberculoses, mais il faut les confirmer avec la bactériologie. Il faut trouver le bacille. Alors, si on a le crachat négatif à l'examen direct microscopique, il faut faire la culture. Et la culture traditionnelle prend entre 4, 6, 8 semaines pour être positive. C'est-à-dire qu'ici, on attend un mois ou deux, le malade peut être mort.
Mario Raviglione est directeur du département de lutte contre la tuberculose à l'OMS.
La FAO a ouvert aujourd'hui sa 28e conférence régionale pour l'Afrique. À cette occasion, l'organisation a exhorté les ministres africains à accélérer les investissements agricoles à destination des petites exploitations, en particulier celles des jeunes et des femmes. Claire Morin-Gibourg a joint Don Rugabira, le représentant de la FAO pour l'Afrique centrale.
La préoccupation majeure, c'est la sécurité alimentaire en Afrique. Le grand problème pour la sécurité alimentaire en Afrique, c'est le fait qu'il y a très peu d'investissements dans le secteur agricole. Et l'autre problème, c'est que la jeunesse, les jeunes, ne sont pas formés à l'agriculture. Vous voyez, dans certains pays, bon nombre d'agriculteurs sont des gens qui ont environ 60-65 ans. Et on ne peut pas imaginer qu'une bonne agriculture, une agriculture rentable, puisse être tenue par les gens de cet âge-là. Il faudrait que la jeunesse soit impliquée. Nos jeunes, qui forment environ plus de 50% de la population africaine, devraient s'investir en Afrique pour faire de l'agriculture un business, quelque chose de rentable qui peut leur apporter.
Est-ce que vous pensez que les gouvernements africains accordent suffisamment d'importance à leurs politiques agricoles ?
Je crois qu'il y a une grande mutation dans les politiques africaines. Les gouvernements, dans la plupart des stratégies qu'ils ont préparées, l'agriculture tient une place primordiale. Je pense, par exemple, aux pays comme l'Éthiopie, je pense aux pays comme le Rwanda, où les investissements sont plus de 10% de leur budget. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, par exemple, aux pays comme le Nigeria, qui a une croissance dans le secteur de l'agriculture de plus de 6% par an. Je pense aux pays comme le Niger, je pense aussi au Ghana. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même ces pays qui ont fait beaucoup de choses dans l'agriculture et d'autres pays qui sont en train de suivre, sûrement dans très peu de temps, vous verrez que l'Afrique tout entière va se remettre à l'agriculture.
Voilà, c'était Don Rugabira, représentant de la FAO pour l'Afrique centrale. Et Et pour la page sport, on accueille ce soir Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
Coupe du monde de football des cadettes au Costa Rica avec deux équipes africaines en quart de finale.
Et oui, le Nigeria croisera l'Espagne après avoir terminé en tête du groupe D avec 9 points grâce à sa victoire en dernier match 3-0 contre le Mexique. Il y a également le Ghana qui a lui aussi fini premier de son groupe, le groupe B, mais avec 6 points et un perdu par 2-1 son dernier match de groupe contre le Canada. Il jouera contre l'Italie. Le Venezuela et le Japon avancent avec 9 points chacun et croiseront respectivement le Canada et le Mexique en quart de finale.
Toujours en football, Timothée, mais cette fois-ci, les compétitions africaines des clubs.
En huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'AS Vita Club a défait les Sud-Africains des Kaizer Chiefs par 3-0. L'autre club de la RDC, le tout-puissant Mazembe, s'est incliné devant le CE Sport de Côte d'Ivoire 2-1. Toujours hier en Ligue des champions, défaite du Oroya face au club sportif sfaxien 0-1 et celle sur le même score du Coton Sport de Garoua face à l'Entente Sétif. Samedi, l'AS Real de Bamako a été tenu en échec à domicile, un but partout par l'Espérance de Tunis. Match nul également entre le Kana de Zambie et le Zamalek d'Égypte. À noter le succès d'Alali Benghazi 1-0 face à son homonyme Alali du Caire et le nul entre AC Léopard et El Hilal, un but partout.
Et on termine avec les huitièmes de finale aller de la Coupe de la Confédération.
Victoire de Medeama du Ghana 2-0 contre Zesco United de Zambie. Étoile du Sahel de Tunis a défait Supersport United d'Afrique du Sud 1-0. Victoire d'AS Kigali sur le même score, c'était face à Difa El Jadida du Maroc. Haoumine du Zimbabwe s'est imposé 2-1 face à Bayelsa du Nigeria. Et belle victoire de Wadi Degla d'Égypte sur Djoliba du Mali, 2-0. Il y a eu également le CS Constantine qui a défait Asec Mimosa, 1-0. 0 but partout dans le match entre Ismaili d'Égypte et Petro Atletico, et de même qu'entre Wari Wolves du Nigeria et CA Bizertin de Tunisie.
Merci Timothée Donangmaï.
Et à présent, la page musicale avec Roger Muntu qui est avec nous dans le studio. Bonsoir Roger.
Bonsoir Nathalie. Alors Nathalie, j'ai une question, peut-être une devinette pour Gabi qui se dit qu'il connaît très bien la musique africaine. Écoute Gabi, elle débute sa carrière à 17 ans et quelques années plus tard devient célèbre en se joignant au groupe Afriza International dans les années 1980. Elle épouse Tabulaï Rochereau. Mmh.
Pour ça me qui, dit quelque
pour,
chose. Hein.
Pour qui elle chantera pendant quelques années. Ils ont eu une fille ensemble. Elle sera notre invitée dans cette semaine dans RM Show, en fait. C'est qui?
Alors, est-ce que sa musique est très appréciée par Lionel Gaïma?
Ça, 5 sur 5.
Mbidiabel?
Oh, ben voilà. Gabi, tu as gagné une voiture. Hein. Voilà, c'est ça, on écoute Mbidiabel.
Jolie voix, Mbidiabel. Elle a quitté le groupe à la fin de 1987 pour se lancer dans une carrière solo, c'est ça Roger?
Exactement Nathalie. Elle a rejoint brièvement un producteur gabonais à Libreville avant de partir pour Paris où ensemble avec le guitariste Ringo Starr va produire son album. Album intitulé au fait Phénomène. Cet album fut un énorme, énorme succès à Kinshasa comme à l'étranger.
Singapore, Tamapo.
voilà, c'est comme ça que l'on devrait terminer tous les jours grâce à Roger Muntou, hein, que vous retrouvez tous les soirs à 20h, c'est ça.
Merci,
temps universel, hein, sur La Voix de l'Amérique. Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Lionel Gaïma était à la mise en onde, à la console, c'était Rob McLean. Laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Avec vous, c'était Nathalie Barge et
Chérubin Gabi Dorsil.
Très bonne soirée à tous, au revoir.